L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Exactement 6h15 à Bukavu, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fait de l'information, trois titres, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda seront en tête à tête dans une dizaine de jours, précisément le 15 décembre prochain. Ça sera au cours d'un sommet qui se tiendra à Luanda en Angola sous la médiation du président angolais João Lourenço, désigné par l'Union africaine pour les conflits dans l'est de la RDC. La commission consultative des conflits coutumiers organise depuis hier lundi à Bukavu des séances de règlement des conflits coutumiers au second degré. L'objectif est de trouver un climat de paix dans les entités à conflit. Transport Kasha 11 Pro, étoile de recherche Puma, deux matchs prévus ce mardi au stade de la Concorde pour le compte du championnat urbain de football 2e division, avant la reconnaissance de terrain des Aigles du Congo de Kinshasa, qui seront reçus demain mercredi par l'OC Bukavu Dawa dans le cadre de la Ligue 1 Illico Kasha. Nous sommes aujourd'hui mardi 3 décembre 2024, voilà tout pour le sommaire.
Ce journal vous est présenté par Expedia Kialou.
Un sommet tripartite Angola, RDC, Rwanda se tiendra à Luanda le 15 décembre 2024 sous l'égide du président angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine pour le conflit dans l'est de la RDC. Ce sommet réunira les présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et leur homologue angolais afin d'accélérer les efforts de stabilisation dans cette région en proie aux violences. Ce sommet intervient après une avancée majeure réalisée le 25 novembre dernier lorsque les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé à Luanda un concept d'opération CONOPS. Ce document stratégique approuvé lors de la 6e réunion ministérielle sous la médiation angolaise fixe les modalités des actions contre les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et du retrait progressif des forces rwandaises présentes en territoire congolais. Et comme vous le savez, le 1er décembre 2024 marque le 60e anniversaire de l'assassinat de la sœur Marie-Clémentine Anoirite Nengapeta, une figure emblématique de la foi catholique en République démocratique du Congo. À cette occasion, un culte d'action de grâce a été organisé à Isiro, lieu où sera érigé un sanctuaire en son honneur. La cérémonie, présidée par l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce moment solennel a permis de rendre hommage à la bienheureuse Anoirite Nengapeta assassinée en 1964 pour avoir défendu sa foi et ses principes. Dans son homélie, hier lundi, Monseigneur Marcel Outembi a évoqué les vertus héroïques de la sœur Anoirite, notamment sa fidélité, son engagement et son intégrité envers la foi chrétienne. L'archevêque métropolitain de Kisangani a dénoncé les rébellions qui ont marqué l'histoire de la RDC, caractérisée par des pillages, des vols, des viols et des violences de toutes sortes. Et nous rentrons au Sud Kivu où une plénière se tient demain mercredi 4 décembre 2024 à l'Assemblée provinciale. Au menu de celle-ci, en croire un communiqué officiel signé par le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, le député Lunanga Anani Anani, il est prévu la question orale avec débat adressé au ministre provincial en charge des travaux publics, de l'urbanisme, habitat, des affaires foncières et des hydrocarbures. Le ministre Georges Kibong et Babingwa sera devant la représentation provinciale pour éclairer la religion des députés, notamment sur le délabrement avancé des infrastructures routières dans les villes du Sud Kivu et les territoires. Cette plénière démarre à partir de 10h, juste heure de Bukavu. Et les ministres provinciaux en charge du tourisme et de la culture en RDC reste persuadé que le secteur du tourisme est porteur d'espoir à travers notamment la prise en compte de la mise en valeur de l'écosystème des villages touristiques pour le développement. Ils l'ont dit à la clôture de la 4e édition de la semaine congolaise du tourisme organisée à Kinshasa. Ils ont aussi pour se faire réitérer l'idée d'une collaboration étroite entre le ministère national du tourisme et les ministères provinciaux pour un élan décisif pour le développement de ces secteurs en RDC. Ceci est contenu dans la déclaration finale rendue publique au terme de ces assises à l'attention des ministres provinciaux du tourisme et d'autres partenaires évrants dans ce domaine venus de 26 provinces de la RDC et d'ailleurs. Écoutons un extrait de la déclaration finale de ces travaux lus par Catherine Balemba-Tidjanga, ministre provinciale du tourisme au Sud Kivu, au nom de ses collègues.
Nous sommes donc persuadés que cette flamme touristique qui s'est allumée ne s'éteindra plus jamais en RDC, qu'elle va illuminer et éclairer toutes les provinces d'aller toujours vers les hauteurs. Tout en vous remerciant et vous félicitant de votre vision du tourisme en RDC et du thème retenu lors de cette édition, à savoir tourisme et paix. Les ministres provinciaux sont persuadés que le tourisme en RDC qui prend en compte le lancement du projet de l'écosystème de villages touristiques et l'idée de la collaboration étroite entre les ministères nationaux et les ministères provinciaux prend un élan décisif.
Commencé mardi dernier, ces travaux de 5 jours ont été présidés par le ministre national du tourisme Didier Musanga. Ils se sont tenus sous le thème « Tourisme et paix ». Et la société Interlac sollicite du gouvernement congolais de faciliter le déplacement des engins matériels et équipements qui ont été légués à l'exécutif provincial par la MONUSCO au site d'Amsar à environ 15 km de Bukavu. Dans une lettre adressée au vice-premier ministre et ministre de la Défense, Interlac exige l'évacuation de ces matériels pour faciliter l'exécution des travaux de construction sur ce site et pour permettre à cette société de jouir de sa propriété. Interlac indique être propriétaire du site Amsar couverte par un certificat d'enregistrement. Cependant, l'occupation de ces sites par la MONUSCO était couverte par un contrat de bail dont le dernier avenant est arrivé à expiration. J'y arrive le 31 juillet 2024, ajoute Interlac dans cette correspondance. Cette société prétend avoir laissé temporairement ses équipements et matériels sur ce site, mais à l'heure actuelle, l'entreprise veut jouir de sa propriété en revanche. Faisant suite à cette correspondance, le gouvernement provincial vient une lettre signée par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano demande au commandant de la 33e région militaire de prendre toutes les mesures urgentes en vue de libérer le site d'Amsar. La société Interlac est prête à y développer des investissements, notamment le centre de formation des jeunes au métier avec le concours de la coopération belge Enabel, ajoute le vice-gouverneur contacté. L'armée promet de réagir incessamment. Nous parlons éducation à présent. Le nouveau directeur de la province éducationnelle Sud Kivu 1, Léon Liunda, a pris officiellement ses fonctions lors d'une cérémonie de remise et reprise hier lundi 2 décembre à Bukavu. Il remplace Léon Moussagui, chef des services généraux à la direction de l'EPST Sud Kivu, qui assumait l'intérim de Simon Zono Ingalea, appelé à d'autres fonctions, précisément le directeur de cabinet de la ministre nationale de l'éducation. Aussitôt pris ses fonctions, Léon Liunda a sollicité l'appui, l'implication et la collaboration de tous pour booster l'éducation en province du Sud Kivu. Il invite les uns les autres à se mettre ensemble pour prêter main forte au gouverneur de province qui se bat pour assurer la scolarisation de la jeunesse.
Avec l'implication, la collaboration de tous, nous allons booster l'éducation dans cette province, j'en suis sûr. C'est ainsi que j'invite les uns et les autres à se réunir autour de nous pour que nous puissions prêter main forte. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui est en train de se battre, de mener pour assurer la scolarisation de la jeunesse de province. Et nous allons aider nos enfants à réussir leur scolarité. Nous n'avons rien amené, nous n'avons amené que notre sœur, nos idées que nous allons devoir proposer aux autorités pour relever tous les défis que nous venons de vivre.
Léon Liunda vient de la province du Haut-Lomami où il assumait les mêmes fonctions. Exactement 6h24 à Bukavu et dans les territoires. Dans quelques instants, la suite de ce radio-journal.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
À présent, la suite de ce radio-journal, plusieurs séances de règlement de conflits coutumiers au secondaire sont organisées depuis lundi 2 décembre à Bukavu par la commission consultative de règlement des conflits coutumiers. Détail Alain Kabika.
Le président de cette commission, le Mwami Kalenga Riziki, explique que la quasi-totalité de ces conflits porte sur les pouvoirs et les limites. Il ajoute que toutes les parties à ces conflits, qui viennent des différents territoires du Sud Kivu, ont été invitées à Bukavu pour cette fin. L'objectif, explique le Mwami Kalenga Riziki, c'est de trouver un climat de paix dans les différentes entités. Des descentes pourraient même être effectuées dans certaines entités pour des enquêtes approfondies afin d'avoir une idée claire sur les conflits en question. Il rappelle que les conflits ont retardé le développement de plusieurs entités du site Kivu, d'où la nécessité de la tenue de ces assises, explique le Mwami Kalenga Riziki.
Du fait que nous avions déjà enregistré plusieurs recours en plus de vingtaine, il était utile à pouvoir commencer à organiser ces séances. Nous avions planifié un calendrier qui va nous permettre de commencer à étudier cas par cas les différents dossiers. Les conflits coutumiers ont retardé le développement de la province du Sud Kivu. Parce que par le travail que nous allons faire, je crois que nous allons apporter une solution.
À l'issue de ces séances, des sentences seront prononcées à Bukavu et ou dans les entités où sont nés les conflits. Les parties qui vont se sentir lésées par les dites sentences pourraient faire leur recours au niveau national, explique-t-il. Signalons que la Commission consultative des règlements des conflits coutumiers CCRCC en sigle a été mise en place en date du 26 janvier 2024 par l'autorité provinciale à travers un arrêté du vice-ministre national organisant ces structures. Ces assises se tiennent au bureau de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers situés à la botte en commune d'Ibanda, juste en face de l'INPP.
Et le député provincial Jackson Kalimba préconise la mise en place d'un cadre permanent de dialogue et de concertation afin de pérenniser la cohésion sociale et la paix entre membres des communautés à Bushumba, Lugendo, en territoire de Kabare. Ceci pour contribue à la réduction sensible des tensions entre les pêcheurs d'Irambira Nord en groupement de Lugendo et Lukondo Golo en groupement Bushumbam et qui a eu des conséquences sur les membres des communautés. Mapendo Linda nous en parle.
Dans un entretien avec Radio Maendeleo au lendemain d'un dialogue social organisé par le curé de la paroisse de Birava, le député provincial Jackson Kalimba propose l'organisation permanente d'un dialogue social au moins une fois les mois en de maintenir cette cohésion sociale et ce climat de paix.
Nous avions sollicité que chaque fin de mois, que les deux villages puissent se retrouver ensemble pour parler par rapport aux problématiques qui guettent les pêcheurs sur le lac Kivu et surtout au niveau de Lugendo et Bushumba. Et nous avons demandé qu'on puisse associer la société civile des deux groupements, les services de sécurité, ainsi que les deux chefs de groupement au niveau de ces deux villages. Néanmoins, les services de sécurité doivent éviter aussi de s'ingérer dans des faits civils. Nous avions rencontré que ce sont les deux militaires qui avaient tiré à bout portant les trois pêcheurs qu'on a eu à transférer ici à Bukavu. Néanmoins, les autorités au niveau local, ainsi que les pêcheurs doivent respecter les normes par rapport à l'environnement.
Précisons que de retour de Virava, Jackson Kalimba a rendu visite à un des pêcheurs qui avait été blessé le mois dernier à la suite des tensions signalées à Bushumba et Lugendo. À l'hôpital militaire de Bukavu où il est admis, ce pêcheur a bénéficié d'un appui sur la facture de soins de la part du député provincial qui a promis de mener des plaidoyers pour qu'il poursuive les soins à l'hôpital provincial.
Et les habitants du quartier Nkafu s'engagent à collaborer avec les services de sécurité et à dénoncer tout cas d'insécurité dans leur milieu. Ils ont pris cet engagement au cours d'une réunion tenue le dimanche dernier et qui a regroupé les cadres de base à certains conseillers communaux de Kadutu avec les services de sécurité. En croit le conseiller communal de Kadutu, Iringe Kusi Mwajarman, ces cas d'insécurité sont signalés surtout sur les avenues Majengo, Chibera et Mwangaza au quartier Nkafu où il ne se passe pas une nuit sans que des cas d'insécurité ne soient signalé. Il invite les services de sécurité à renforcer davantage les éléments de l'ordre au quartier Nkafoum. Iringe Kusimwa, Germain en parle.
Qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il y ait les camps de vol, les camps de viol. Nous retrouvons le corps sans vie au niveau du lac Kivu, toujours dans le quartier Nkafoum. Et nous avons essayé de mettre en place quelques stratégies qui restent confidentielles. Et d'une manière générale, nous avons demandé à la population de rester toujours vigilante, de collaborer toujours avec le service de l'ordre. Et d'où nous demandons également à l'autorité qui est dans sa charge et la protection des habitants et leurs biens de multiplier toujours les agents de l'ordre partout dans la commune de Kadutu, dans le quartier qui compose cette commune et dans toutes les avenues.
Vous venez donc de suivre le conseiller communal de Kadutu, Iringe Kusimwa Germain. Nous parlons environnement à présent. Contribuer à la lutte contre la pollution plastique et la destruction de l'environnement, c'est l'objectif principal du projet Bukavu Safi, en français Bukavu Propre, de la fondation Anansoft, dont la deuxième phase a été lancée le week-end dernier dans la ville. Ce projet consiste à collecter les déchets plastiques issus des ménages moyennant octroi des vivres aux propriétaires. Détail Hélène Boudjeriri.
Pour un stock de 10 sacs de déchets plastiques, les propriétaires reçoivent un paquet complet constitué d'un sac de riz, de la farine, des poissons et une portion de sucre de la part de la fondation Anansoft. Les enfants qui amènent les déchets plastiques de leur domicile reçoivent en retour des biscuits et des boîtes de sardines. À la première phase, 10 tonnes de déchets ont été collectées et 5 tonnes supplémentaires l'ont été au terme de la deuxième phase qui a été organisée le samedi dernier. Les coordonnateurs de la fondation Anansoft, Peter Mukunda, invite les habitants de Bukavu à s'approprier ces projets en rendant disponibles leurs déchets pour contribuer à la lutte contre l'insalubrité.
L'objectif principal, c'est de contribuer à l'assainissement de la ville de Bukavu par la collecte des déchets plastiques qui est réduction effectivement de la pollution de notre lac.
Et que gagne la fondation? Parce que nous constatons que vous collectez les déchets ici à l'ITFM Bukavu. Quelle sera la destination de ces déchets?
Anansoft, c'est l'un des acteurs qui contribue à l'assainissement de la ville. Aujourd'hui, c'est collecte des déchets, mais précédemment, en 2022, on avait aussi installé des poubelles pour collecter les déchets. Et donc aujourd'hui, nous collectionnons les déchets. Nous sommes en train de réfléchir avec d'autres partenaires comment les transformer, puis comment aussi élargir les projets dans toute la province de Sud-Kivu.
Dans la première phase, nous avons collectionné plus de 10 tonnes de déchets. Et aujourd'hui, nous venons encore de collectionner 5 tonnes. Toujours contre les vivres, et nous voyons quand même que les objectifs et les indicateurs sont quand même importants. Et il y a réduction, il y a aussi l'appropriation du projet par la communauté, et c'est une satisfaction pour la fondation.
La première et la seconde phase ont été organisées à l'ITFM Bukavu pour les habitants des quartiers Nyakaliba, Chimpunda, Nkafu et Chiriri. Cette opération s'étendra à d'autres endroits de la ville de Bukavu avec la mission de faire de Bukavu une ville propre, conclut Peter Mukunda.
Et avant de parler sport, les activités de l'institution de microfinance Ekima se dérouleront désormais dans son nouveau siège, précisément dans l'immeuble qui se trouve entre l'Institut français et le Nganda Les Top, juste en face du restaurant Kinelubu sur avenue Patrice Emery Lumumba au quartier Ndendere en commune d'Ibanda. La cérémonie d'inauguration de ce nouveau siège est intervenue hier lundi en présence des agents de cette institution, les clients de la ville de Bukavu et d'autres invités. De présent, Omer Moudekiriza.
Au cours de cette cérémonie, le chef d'agence de l'IMF Ekima, Rams Mutuza, a indiqué que cette institution a déménagé pour satisfaire aux requêtes de ses clients qui voulaient un espace plus propre, sécurisé et moderne. Il appelle la population de la ville de Bukavu et ses environs à s'approprier les activités de l'IMF Ekima pour bénéficier de ses services et de la nouvelle technologie qu'elle compte relancer en faveur de ses clients. Rams Mutuza en parle.
L'IMF Ekima est en train de devenir encore plus grand, ce qui fait qu'il doit aussi avoir les locaux qui correspondent à sa taille actuelle, mais aussi pour permettre à nos clients de se sentir plus sécurisés. Parce qu'il y avait quelques plaintes par rapport à l'ancien bâtiment. Alors nous avons estimé qu'il fallait répondre à toutes ces préoccupations de nos clients pour leur permettre de se sentir non seulement sécurisés, mais aussi à l'aise dans leurs transactions.
De leur côté, les clients présents à cette activité se disent satisfaits de la manière dont cette institution de microfinance reste attentive à leur doléance et surtout la décision de s'installer dans un bâtiment qui remplit toutes les conditions du travail. L'un d'eux en parle.
Félicitations pour la direction générale de l'équipement. Nous disons félicitations pour le chef d'agence de l'équipement Bukavu. Nous disons félicitations pour toute l'équipe de l'équipement Bukavu. Au nom de tous les clients, nous vous disons sincèrement félicitations mille fois. Tout ce que vous venez de faire, c'est une bonne chose pour les clients parce que je trouve que c'est un bon bâtiment.
Signalons que l'IMF Ekima compte actuellement plus de 5000 clients dans la ville de Bukavu et propose plusieurs services, notamment l'épargne et les crédits.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maedeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Sport à présent, exactement 6h34 à Bukavu, Coupe d'Afrique des Nations Handball Dames RDC 2024. Les Léopards Dames s'apprêtent à livrer leur dernier match du groupe B ce mardi 3 décembre contre les Palancas Negras de l'Angola à 18h heure de Kinshasa. Une sélection dure à croiser, les super favorites du tournoi qui n'ont fait qu'une bouchée de toute l'adversité face à la Tunisie, la Guinée et le Cameroun. Face à face aux allures de l'habitude pour les Angolaises et de la revanche pour les Congolaises aura une connotation très particulière. Les Léopards et Palancas Negras ont dignement composté leur ticket pour le quart de finale. Elles joueront décontractées et pleinement défendues ou disons détendues pour soigner leur participation dans cette messe africaine. 15 fois championne d'Afrique, les Angolaises constituent le summum du handball féminin en Afrique. Signalons que la Coupe d'Afrique des Nations Handball Dames 2024 se déroule au gymnase jumelé du stade des Martyrs. Nous sommes à Kinshasa. Et au niveau local, poursuite aujourd'hui, mardi 3 décembre, du championnat de l'entente urbaine de football de Bukavu avec deux rencontres de la seconde division. À 12h, l'US Cachan découdra avec le FC 11 Pro et à 14h, place à la confrontation entre le FC Étoile des Recherches et le FC Apuma. Ces rencontres démarrent à midi pour permettre donc à l'équipe des Aigles du Congo de Kinshasa de tenir la séance des reconnaissances de terrain au stade de la Concorde de Kadutu en prélude de la rencontre de la Ligue 1 Illico Cash entre l'OC Bukavu Dawam et cette équipe venue de Kinshasa qui a perdu son match dimanche dernier devant Étoile du Kivu sur la note étriquée d'un but à zéro. Parlons toujours du championnat d'entente urbaine de football de Bukavu. Disons que hier, deux rencontres de la première division se sont jouées au stade de la Concorde à 13h30. Rouzizi a largement dominé Tonfa en s'imposant sur le score fleuve de 4 buts à 0. Et juste après, Régisport s'est imposé devant le FC Kivu sur la note étriquée d'un but à 0.
La revue de presse. Radio Maïndélé au Cap vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Les journaux parus à Kinshasa planchent sur le meeting du chef de l'État, Félix Tshisekedi, devant la population d'Isiro, où il a pris part au 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Honorite Nengapeta. Hélène Boudjiriri pour la revue de presse.
Lors de son discours prononcé au carrefour de la Poste, révèle la tempête tropique, le président de la République a mis en garde tous ceux qui participent aux rébellions. D'entrée des jeux, fait savoir ses quotidiens, les chefs de l'État, accompagné par la première dame, a remercié la population d'Isiro pour sa grande mobilisation et l'accueil qu'elle lui a réservé. Évoquant la raison de sa visite, note ce portail, le président Tshisekedi a déclaré, je cite, « Je suis venu voir les travaux entamés pour développer notre province et pour la célébration des 60 ans du martyr de la bienheureuse Honorite, comme il le fait lors de toutes ses tournées d'itinérance », ajoute ce tabloïd. Le chef de l'État a expliqué les 6 engagements de son programme quinquennal. Les potentiels rapportent que le chef de l'État a ensuite rappelé l'objet principal de sa visite, à savoir constater l'avancement des travaux de développement dans la province du Haut-Uele et participer aux célébrations du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Honorite selon ce quotidien, Félix Tshisekedi a également saisi cette occasion pour dénoncer les velléités de certains groupes qui cherchent à rééditer les événements tragiques et à marquer l'histoire du pays en disant, je cite, « Vous ne devez pas accepter ce genre d'offres, même s'il s'agit de vos propres frères. » Devant la population du Siro, écrit le journal Le Quotidien, le chef de l'État a rejeté l'idée d'un troisième mandat que l'opposition et une partie de la société civile lui impitent à travers sa démarche de la révision ou des changements constitutionnels. Selon lui, ajoute le tabloïd, l'objectif est de mettre les pays sur la bonne voie. Dans les colonnes d'Info 27, les chefs de l'État rappellent que la constitution actuelle, bien qu'ayant permis des avancées significatives, demeure un cadre perfectible conçu dans un contexte marqué par des influences extérieures. Ce quotidien fait savoir que le déplacement de Félix Tshisekedi à Isiro est marqué par l'hommage rendu à Nwarit et l'inspection des projets de développement local témoigne de l'engagement du chef de l'État à maintenir un dialogue de proximité avec les populations. Econews indique que cette cérémonie religieuse, empreinte d'émotion et de recueillement, se tient dans un contexte de grande ferveur. Cet hebdomadaire fait savoir que des fidèles, clergés et autorités locales sont rassemblés pour honorer la mémoire de cette figure emblématique de la foi chrétienne en RDC. Béatifié par le pape Jean-Paul II en 1985, ce tabloïd précise que Marie-Clémentine Anwarit Nengapeta, religieuse de la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille, a été assassinée le 1er décembre 1964, à l'âge de 24 ans, lors des violences ayant marqué la rébellion Simba dans cette partie du pays. Pour sa part, le phare estime qu'avec cette visite, le président Tshisekedi réaffirme son attachement au développement des provinces et son rôle de garant de l'unité nationale. Sa mise en garde contre les rébellions et son appel à la cohésion résonnent comme un message d'espoir pour un avenir de paix et de prospérité, conclut ce portail.
Exactement 6h40 par ici prend fin ce Radio Journal. Émile Mouindo a assuré la mise en onde. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.